Peut-être à ce dimanche matin du mois de mars où il te manque une heure de sommeil, tu ne réalises pas que la puissance de Dieu habite en toi. Dis à ton voisin, à ta voisine encore, dis-lui, tu es assis à côté de quelqu'un de dangereux, de puissamment dangereux. Et si Jésus n'était pas ressuscité, il aurait été comme, il aurait paru comme un menteur, un imposteur, quelqu'un qui racontait des fables et qui disait des choses qui étaient sans espoir. Et c'est pour ça que Paul va dire en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 17 à 19, il va dire, « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. » Parce qu'à cette époque-là, beaucoup de gens, de faux prophètes, disaient, enseignaient des choses. Mais seul Jésus est ressuscité. Il dit, s'il n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et c'est la meilleure des nouvelles. Et je vous rappelle, hein, lorsque les femmes sont allées au tombeau, ils sont arrivés avec des aromates, ils sont arrivés, et juste en passant, est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Les femmes étaient, n'est-ce pas, les dernières à la croix et les premières au tombeau. Alléluia! Et ces femmes-là sont arrivées pour chercher le corps de Jésus et le tombeau était vide. Il y a eu des anges qui leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. » Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est encore vivant, ça nous donne accès à une vie en abondance. Ça nous donne accès à une vie en abondance sur la terre, mais au ciel. Ça change tout. La résurrection change la façon dont nous allons passer l'éternité. La première chose, c'est que ça change la façon dont nous allons passer l'éternité. Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26, c'est écrit, « Moi, je suis, Jésus disait, « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce que tu réalises la première chose que la résurrection change, c'est la façon dont tu vas passer l'éternité. Nous serons immortels. Et si tu traverses une période difficile, c'est ça le christianisme, c'est de croire que je ne suis que de passage et qu'un jour pour l'éternité, je vais passer ces moments avec mon Jésus dans les noces de l'agneau où ce sera la fête où il n'y aura plus de peine, de larmes. Amen. Ça, c'est l'ultime fondement de notre vie. Nous sommes que de passage. Alors, la résurrection, ça change la façon dont nous allons passer l'éternité. Mais ça change aussi la façon dont nous allons vivre sur la terre. En fait, ça devrait changer notre façon de vivre. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Nous ne devrions pas vivre notre vie comme les gens autour de nous qui ne croient pas. Parce que la résurrection, ça change tout. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, c'est tellement un beau verset, ça dit, « Dans son grand amour, la Bible parle de Dieu, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. » Êtes-vous contents? Nous avons accès à cette nouvelle vie grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Parce que Christ est mort, parce que le tombeau a été trouvé vide. Savez-vous qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Jésus? Parce qu'il a été ressuscité. Et par cette résurrection, je peux avoir une vie remplie d'espérance. Dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est Jésus qui parle, il a dit, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. » Jésus est venu sur la terre, mort et ressuscité, pour que nous passions l'éternité avec lui, mais pour que nous ayons une vie en abondance sur la terre. Amen. Mais je vais apporter une nuance. Vous savez, le salut, être né de nouveau, et je t'encourage à le faire, si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, si tu ne reconnais pas qu'il est mort sur la croix pour effacer tes péchés, afin que tu sois réconcilié avec Dieu, je t'invite, tout à l'heure, on va faire de venir en avant, de demander de la prière, parce que le salut est pour toi. Et lorsqu'il vient, on le fait de lui, le sauveur et le Seigneur de notre vie, ça change tout. Et cet état-là me donne accès à la vie éternelle. C'est un état. Mais la vie en abondance est un choix. Je l'aimais plus avant, Stéphanie. J'aime mieux, moi, être un état. Moi, j'aime ça, la vie en abondance. Mais en fait, la vie en abondance que Jésus nous offre dépend en partie de notre responsabilité. Wow, n'est-ce pas? Et il y a un lit, et j'ai travaillé fort, mes amis, j'ai lutté, ça fait longtemps que, je me confesse, j'ai pas travaillé aussi fort pour un message. J'étais à Québec, j'avais des beaux messages en poche pour arriver ici, et depuis lundi, le Seigneur m'a dit, c'est pas ça que tu prêches ici, tu recommences à zéro, rebelote, et tu fais un autre message. Alors, je crois qu'il y a une fournée, un petit pain chaud juste pour vous, et le Seigneur avait me mis sur mon cœur, bien sûr que c'est par la grâce qu'on est sauvé, ce n'est pas par les œuvres, et c'est pour ça que l'éternité, c'est le don que Dieu nous fait. Mais la vie en abondance demande des choix et demande de nous, ça nous demande une responsabilité. Et il y a un verset dans la parole de Dieu que j'avais toute cette semaine que je veux vous partager. C'est dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19 à 20. Et c'est Dieu qui va parler à son peuple. Il va dire, « Je vous offre le choix entre la vie et la mort. » Entre la bénédiction et la malédiction, choisissez donc la vie en abondance, le zoé de Dieu, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel t'a promis. Amen. Et dans ce même passage-là, au verset 15, juste un petit peu plus haut, ça dit, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Et je mets aujourd'hui devant toi la mort et le mal. » Et le verset 11 nous dit, « Ce commandement n'est certainement pas au-dessus de tes forces, hors de ta portée. » Mes amis, Nouvelle Vie, La Prairie, dans notre vie, sur le chemin de la vie, nous sommes face à des choix, entre le bien ou le mal, entre la bénédiction ou la malédiction. Et Dieu dit, ce n'est pas au-dessus de ta portée. Parce que Christ est mort et ressuscité, tu as accès à la puissance de Dieu pour choisir la vie. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu où vous voulez choisir la vie? Je vais apporter une autre nuance. Des fois, dans ce texte-là, on dit qu'il y a un choix entre la bénédiction et la malédiction. Et il y a des fois, c'est vrai dans notre vie, que nous pouvons subir des épreuves, des défis, des tempêtes, parce que nous avons fait des mauvais choix. Il y a des conséquences de nos choix. Mais il est aussi vrai qu'on peut vivre des moments de malédiction, de défi, de difficulté, non pas suite à des choix. On peut subir les choix de quelqu'un d'autre, mais aussi la vie, comme la Bible nous dit, que j'ai dit dans Jean 10:10, le voleur vient pour tuer, égorger et détruire. Et c'est important de voir que nos choix vont influencer notre vie. Et quand je dis « choisis la vie », je veux, Seigneur, aujourd'hui, je me mets avec vous. Tu sais, c'est un message qu'on ne prêche pas un en face de l'autre. C'est un message qu'on prêche en rond ou que je me prêche à moi-même. Seigneur, dans ma vie, je veux choisir la vie. Je veux choisir de vivre une vie en abondance pour moi, ma maison, mon église, ma destinée. Et je me disais, comment ça se fait? Concrètement, comment je peux choisir la vie? Très concret. Bien sûr, on peut choisir la vie, la bénédiction. On peut choisir la vie lorsqu'on met Jésus en premier dans notre vie. Lorsque tu mets Jésus en premier. quand tu demandes sa volonté, quand tu écoutes ce qu'il a à dire, bien sûr. On peut choisir la vie lorsqu'on marche selon les commandements de Dieu. Selon les commandements de Dieu, ça nous évite, bien sûr, des choses qui sont difficiles. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de choisir la vie pour avoir une vie en abondance, pour avoir une vie, de vivre la vie que Dieu t'a préparée, t'a destinée. Et je vais partager, il y a plusieurs aspects, mais aujourd'hui, j'avais sur mon cœur de partager deux aspects dans notre vie que nous pouvons choisir afin d'avoir cette vie en abondance. Et quand je regarde à la vie en abondance, les choix, premièrement, ça disait « Choisis la vie, tu as le choix entre la vie ou la mort, entre le bien ou le mal. » Peut-être que je vais vous surprendre. Le premier choix pour vivre une vie en abondance, tu peux choisir de regarder à tes limitations ou tu peux choisir à regarder au potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Dis « Amen » à ton voisin, c'est pas mal bon ce qu'elle dit. Dis à l'autre, elle travaillait pas mal fort. Et je fais des blagues, mais ça me parlait tellement. Tu peux choisir de regarder à tes limitations. Il y a une différence entre limitation et limite. Une limitation, c'est une action de fixer la limite, la frontière. Je me limite. Une limite, et ça c'est bien, c'est une limite, c'est que tu peux te mettre des limites si ta famille c'est ta priorité, tu vas te mettre une limite de ne pas travailler 12 heures par jour. Ça, c'est une limite. Une limitation, c'est que tu vas te limiter dans ce que Dieu demande de toi. C'est quoi une limitation plus concrètement? Je vais vous donner un exemple. Moi, je viens d'une famille, ma mère était d'une femme très, très avant-gardiste. Elle vient d'une famille de 13 enfants, la 13e, surtout des hommes. C'était une époque où les femmes n'avaient pas beaucoup accès à l'éducation, majoritairement, c'est pas si longtemps, hein? Elle est décédée, elle aurait presque 90 ans, mais à cette époque-là, les femmes avaient moins accès à l'éducation. Ils favorisaient plus les hommes, la société aussi. Et tout au long de ma vie, ma mère m'a toujours poussée à dépasser mes limitations. Parce qu'elle n'avait pas accès à l'éducation, elle aurait voulu être médecin, elle avait des compétences, mais parce qu'elle n'y avait pas accès, elle a dit, « Ma fille, il faut que tu ailles plus loin que moi je suis allée. » Ce qui fait que cette femme-là m'a inspirée à me dépasser. Et c'est pour ça que j'ai fait de hautes études, et j'avais pas cette limitation que la femme avait moins accès. Par exemple, j'ai travaillé dans le milieu pharmaceutique, dans un domaine d'hommes, en urologie, cancer prostate, cancer de vessie, c'était particulièrement des hommes. J'ai défendu des projets de recherche autour particulièrement des hommes et je ne me sentais pas avec des limitations. Voyez-vous ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je crois ça fait 24 ans aujourd'hui que je suis, pas aujourd'hui, mais cette année que je suis pasteur. Imaginez en 2000, une femme pasteur, c'était plutôt rare. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, il y a 24 ans, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait encore moins. Il y avait Joyce Meyer, puis c'est tout à peu près, hein, tu vois. Et grâce à cette pensée-là, ma mère m'a aidée à ne pas rester dans mes limitations. Par contre, ça, c'est un aspect de ma vie. Mais si je l'applique encore un peu plus loin, il y a des aspects où on fonce parce qu'on repousse les limitations. Mais des fois, dans notre caractère, dans des situations, et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, des fois, on peut arriver à accepter, excuser, voire même défendre nos limitations. Exemple, je voudrais me mettre en forme, je voudrais m'inscrire à un gym, mais moi, je ne suis pas sportive. Je n'ai jamais été sportive. Ce qui fait que je ne m'inscris pas à un gym ou je ne fais pas de sport parce que moi, ma limitation, c'est que je ne suis pas sportive. Est-ce que vous comprenez où je m'en viens? J'ai des super idées. J'aimerais devenir une travailleuse sociale. J'aimerais retourner à l'école. Je n'ai jamais eu accès. Le nid est vide. Mes enfants sont partis de la maison. Je voudrais retourner à l'université, mais je suis trop vieille. Mais je n'ai pas d'argent. Je commence à aller plus loin et peut-être que ça va faire encore plus mal. Des fois, La vie abondante, c'est ça, c'est les rêves, les plans que Dieu a pour toi, et tu vas mettre des limitations. Tu vas, de ton arrière-plan, je peux pas, je donne le mieux à ma famille. Moi, mon père, il n'a jamais été affectueux avec moi. Je ne peux pas donner plus que ça. Je suis colérique, je m'emporte tout le temps. Mais de génération en génération, et ça, c'est vrai chez les Poirier, il y avait des colériques de génération en génération. Puis j'ai dit, non, on ne va pas accepter la colère de génération en génération. On ne va pas accepter, il y a des dépendances. Mais moi, je viens d'une famille de toxicomanes. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais à chaque fois que j'accepte pas une limite, mais une limitation, que je la justifie, cela me prive de la vie en abondance que Dieu a pour moi. Et ça, c'est tellement important. Dans la Bible, il y a un verset qui dit en Philippiens 4, verset 4, chapitre 20, 24, ça dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Pas en ce que ton père a dit, pas juste en ta génétique, pas juste de ce que tu as eu ou ce que tu n'as pas eu. Et je ne dis pas que ça fait pas mal et je ne dis pas que ça fait, c'est facile. Mais je mets devant toi le choix. Et ce choix-là n'est pas au-dessus de tes forces, c'est ce que la Bible nous dit. Je vous exhorte à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt, et de la vieille femme aussi, hein, n'est-ce pas? Du vieil homme, de l'être humain qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme ou la femme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si vous défendez vos limitations, vous allez être limité. Mais si vous regardez à Jésus-Christ, à la lumière de la puissance de la résurrection, celles-ci peuvent être repoussées. Si Dieu a mis dans ton cœur un rêve, un plan, s'il pointe le doigt sur quelque chose dans ta vie, la puissance de la résurrection peut te donner la force d'être transformé et de te saisir de cette vie en abondance. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toute chose peut devenir nouvelle par la puissance de la résurrection. Et tu as un choix de regarder à tes limitations. On en a tous. Le problème, c'est pas que j'en ai plus que les autres. J'en ai, on en a tous. Je peux choisir de les regarder, de les justifier, de les défendre voire même, ou je peux choisir de regarder au potentiel que Dieu a mis en moi. Je peux choisir de regarder au plan que Dieu a mis en moi. Je peux choisir de regarder aux promesses de Dieu pour ma vie. C'est un choix. Et je prie qu'aujourd'hui, qu'il y a des hommes et des femmes, vous allez dire, Saint-Esprit, viens me montrer. Est-ce que je me limite dans ma vie familiale, dans mes relations, dans mon mariage, parce que je me justifie que j'ai toujours été comme ça, ou je crois, j'enlève l'homme et la femme qui est passée, et je pars la puissance du Saint-Esprit, je dis, Seigneur, repousse mes limitations, viens me transformer. Et que ce soit des limitations intérieures et des limitations extérieures. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est en ce mois de mars où je me dis, il va être 4 personnes à l'église, mais peu importe, 4 personnes, Seigneur, tu as une parole pour quelqu'un. Et quelqu'un qui va dire, moi, je ne vais pas regarder à mon arrière-plan pour retourner à l'école, je ne vais pas regarder à mes finances, je ne vais pas regarder à mon âge, je vais regarder au potentiel et aux promesses de Dieu pour ma vie. Dieu croit à un potentiel. Dieu a, sais-tu ton potentiel? Dieu a mis des dons en toi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Il y a tous les dons que tu as. Va les chercher. Et parfois, des fois, on oublie quels sont les dons. Dieu a du potentiel. Il a mis du potentiel en toi. Et Thomas Edison, je lisais sur lui, je cherchais une citation sur comment on a du potentiel. Et bien souvent, parce que souvent, quand on a échoué, c'est là qu'on se met des limitations. Et Thomas Edison, c'est l'homme qui a inventé l'ampoule électrique incandescente. C'est un homme de science, c'est un homme qui a marqué l'histoire. Et il a écrit « Beaucoup d'échecs dans la vie proviennent de gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. » Et peut-être que tu n'oses pas aller plus loin, faire des choses, changer, t'inscrire à un gym, peu importe, tu es juste peut-être à quelques fractions de décision d'avoir le succès. Et ça me touchait parce que quand tu regardes la vie de Thomas Edison, imaginez que ce brillant scientifique qui a marqué l'histoire a été expulsé de l'école à l'âge de 8 ans. Et son professeur, son enseignante le trouvait stupide, brouillon, qui apprenait pas assez rapidement. Alors, sa dernière journée d'école à Thomas Edison, l'enseignante lui a remis une lettre qui était cachetée. Elle a dit « Tu donneras ça à ta mère lorsque tu arriveras à la maison. » Et imagine-toi ce jeune garçon-là expulsé, que le professeur dénigrait, dégradait. Imagine-toi, lui, il devait regarder à ses limitations et non pas à son potentiel. Et avec cette petite lettre-là, il a donné sa lettre à sa maman. Et lorsqu'il a... La maman, elle a ouvert la lettre et elle lui a lu. Elle a dit, selon ton professeur, c'est écrit, « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. » Ça, c'était toute une mère. Et des années plus tard, lorsque la mère de Thomas Edison est décédée, Thomas Edison a eu accès à ses souvenirs et il a retrouvé, et c'est une histoire qui est vraie, la lettre du professeur. Et voulez-vous savoir qu'est-ce qui était écrit sur cette fameuse lettre? « Votre fils est brouillon. Il pose trop de questions. On détecte qu'il y a une maladie mentale. Nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. » Imagine-toi, cette femme-là avait changé la lettre l'avait réinventée parce qu'elle croyait au potentiel de son fils. Ton Père Céleste réécrit la lettre de ta vie. Peut-être que tu ne te crois pas en ton potentiel, peut-être que tu penses que les autres ne croient pas en ton potentiel, mais Dieu croit en toi. Dieu croit au don qu'il a mis en toi. Dieu croit qu'il y a cette vie en abondance pour toi. Et ça dit qu'Edison, dans son journal plus tard, a écrit... Il a dit « Edison était un enfant pourri et stupide, mais grâce à une mère qui croyait en lui, il est devenu un génie. Dieu croit en toi. Ne regarde pas à tes limitations si tu veux avoir cette vie en abondance, mais regarde au potentiel que Dieu a mis en toi. » Amen. Choisis, tu as le choix entre la vie ou la mort, entre la bénédiction d'aller dans les voies que Dieu t'appelle. Et le deuxième point, dernier point, choisis la vie. Comment je peux choisir la vie? Je ne regarde pas mes limitations, mais je regarde au potentiel que Dieu a mis en moi. Et deuxième point, je ne regarde pas à mes obstacles, mais je regarde à celui qui ferait un chemin. Est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'obstacle? Mais à la prochaine diapositive. Voilà. Sur le chemin de la vie, il est possible de rencontrer des obstacles. Est-ce qu'un être humain dans ce lieu peut dire « Amen avec moi » ? Il est possible que tu sois venu dans ce lieu. Cette image-là, c'est très, très, très figuré. Mais tu as peut-être un obstacle dans ta maison. Tu as peut-être un obstacle professionnel. Tu as peut-être un obstacle financier. Tu as peut-être un obstacle dans ton mariage, dans le rêve que Dieu a pour toi. T'as l'impression, on peut avoir l'impression que c'est insurmontable. C'est certainement difficile à surmonter. Et je dis, ce n'est pas facile de marcher sur le chemin de la vie. Mais à la prochaine. Et des fois, on peut avoir l'impression qu'on a le monde entier sur nos épaules. Et ça devient difficile de ne pas voir l'obstacle. Tu es écrasé sous l'obstacle. Mais choisir la vie. Je peux choisir de regarder uniquement l'obstacle, ou je peux choisir de regarder à celui qui est capable d'ouvrir un nouveau chemin. Choisir que Dieu a préparé une vie en abondance. Vous savez, des fois, on est pris sous l'obstacle, on fait des stratégies, on fait des plans, et ça ne fonctionne pas. Avez-vous déjà essayé d'émerger d'une situation à plusieurs façons et ça n'a pas fonctionné? Des fois, on peut arriver même dans une saison de notre vie où on ne sait même plus comment essayer d'émerger. On ne sait même plus quoi dire. On ne sait plus quoi faire. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme projette de suivre un tel chemin. Et c'est bien de faire des plans. Et c'est bien de trouver des stratégies. Et c'est bien, il y a une notion de responsabilité. Même souvent, mes amis, je vais parler pour moi. Moi, je suis une cartésienne scientifique. Donc, moi, c'est le plan 1, 2, 3, B, C, D. J'ai des stratégies. Mais parfois, Dieu m'a emmené dans une situation où que bien que j'avais des plans, des stratégies, j'y arrivais pas. Et il fallait que je revienne à celui qui ouvre le chemin. Pas à Stéphanie et ses stratégies. Une fois que j'ai tout fait, je dois revenir à celui qui ouvre le chemin. Proverbes chapitre 16, verset 9, ça dit « L'homme projette de suivre tel chemin, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. » Tu es sur le chemin de la vie, peut-être à une croisée des chemins, peut-être face à ce gros obstacle-là, Dieu va diriger tes pas. Dieu va te donner des solutions. Si tu lui demandes, Dieu peut t'aider à dire, à trouver quoi dire quand tu ne sais plus quoi dire. Le psaume 121:1 dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? » Et lorsque tu regardes à la montagne, et ce n'est pas marqué d'où viendra le secours, c'est une question que le psalmiste dit. Quand je regarde à la montagne, à un moment donné, je me dis, c'est d'où va-t-il venir le secours? Comment je vais surmonter cet obstacle? Et je veux te le rappeler, ça a l'air simpliste, mais c'est ce qui change tout parce que Christ est mort et ressuscité. Je peux aller, comme la Bible dit, mon secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si Dieu est capable de créer les cieux et la terre, il est capable aujourd'hui de frayer un chemin dans ta vie, peu importe les obstacles. Il est celui qui crée le chemin. Il est celui qui fait les possibilités. Il est celui qui réinvente une façon de faire, qui redéfinit une façon de faire. Si tu as besoin d'un chemin pour ta vie, il peut le faire. Je te rappelle que les Israélites, le peuple d'Israël, face à la mer Rouge, il n'y avait pas de chemin. Il a créé un chemin. Il a ouvert la mer en deux. Il les a conduits au désert. Il a frayé un chemin d'une façon surnaturelle. Il a fait tomber de la nourriture du ciel. Il a fait sortir. Est-ce que vous croyez la Bible? C'est ça qui est écrit dedans. Il avait soif. Il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Dieu peut faire un chemin nouveau d'une façon que tu ne t'imagines pas parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est tout-puissant, parce que c'est lui en son temps et de la façon qu'il décide, si tu choisis non pas de rester pris dans l'obstacle, mais que tu choisis de regarder et de croire qu'encore aujourd'hui, il peut faire des miracles. Il peut encore délivrer de toutes sortes d'endroits où tu as besoin qu'il agisse. Il peut te redonner un chemin nouveau dans tes entreprises, une stratégie nouvelle à ton travail. Il peut te redonner. Il peut redonner, enlever la froideur dans un mariage. Il peut encore, d'une nouvelle façon, délivrer de la toxicomanie, de toutes ces choses-là. Il peut faire un chemin nouveau. Et moi, j'avais besoin que Dieu me le montre, parce que je suis une scientifique cartésienne. Et j'étais à Chêne, je parle mercredi. À chaque année, à Grand Paris, Emelka, il y a une grande conférence pour femmes qui s'appelle Chêne. Et l'année passée, j'étais une oratrice qui était invitée. Et je me suis préparée sur Montréal. Et puis, je me préparais mon message. Et c'était le thème du message pour les femmes, c'était « Dieu veut vous faire enfanter ». Et là, tu sais, j'ai commencé mon message. « Waouh, 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 les femmes, Dieu veut vous faire enfanter, ouais ». Et là, j'ai dit « Si tu as 50 ans et plus, ce message est pour toi, tu vois ». Et toutes les femmes de 50 ans, elles disent « Non, moi, je ne veux plus enfanter à 50 ans ». Et là, on rigolait. Mais à Montréal, quand je priais, j'avais cette conviction-là, que le Seigneur voulait faire enfanter des femmes qui étaient stériles, infertiles. Et là, une fois que j'ai commencé à prêcher pour que Dieu voulait faire enfanter, nous faire enfanter spirituellement, le Seigneur m'a dit « Ose ». Ose. Il y a des femmes dans ce lieu qui ont besoin d'un chemin nouveau. Ils ont besoin de croire que je suis encore capable de guérir. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu sais, l'infertilité chez les femmes, c'est difficile. Je ne veux pas qu'il y ait des déceptions. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Et là, j'arrive à la fin du message, prie pour enfanter spirituellement. Puis j'ai dit, j'aimerais vraiment qu'on prie pour les femmes qui sont infertiles, que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau que ça fait longtemps que tu espères. Et on a prié pour ces femmes-là. Et je l'ai rencontrée. Après, j'ai parlé avec certaines qui sont venues me voir. Il y avait une de ces femmes-là. Elle est allée en procréation à PMA avec fécondation in vitro. Et ça, il restait un embryon. Un embryon avant champ. Puis le médecin, il avait dit, ça fait tellement de fois, ça n'a pas fonctionné. Je serais vraiment surprise. Vraiment, ça prendrait vraiment un miracle pour que ça fonctionne. Mais j'ai dit, on a prié, on va prier. Dieu est capable de le faire. Bien, imaginez, regardez si on peut mettre la prochaine diapositive. Regardez, c'est Valentin que je vous présente. Et cette femme-là, elle a, bien sûr, ce seul embryon qui nécessitait un miracle, elle est tombée enceinte suite à Shine. Et si vous regardez, Valentin est né le 9 janvier 2024. Et faites-le des comptes, c'est exactement 9 mois. Elle n'est pas tombée enceinte dans l'année ou dans les 10 prochaines années, elle est tombée enceinte. Et là, j'ai dit, Seigneur, quel beau miracle. Et après, j'ai eu d'autres témoignages. Est-ce que je peux mettre la prochaine diapositive? Je vous présente maintenant Nora. Nora est née le 12 janvier 2024, et sa maman était complètement stérile depuis des années. Le couple était infertile, et de ce moment-là, Dieu a créé un nouveau chemin. Et imaginez, là, c'est pas suffisant, c'est comme moi, je suis Thomas, hein, si je mets pas mes doigts dans la plaie. Et j'ai eu un autre témoignage. Laissez-moi vous présenter maintenant Mia. Mia, elle est née le 8 janvier 2024 et les mamans de Mia étaient à Chêne et on a prié pour elle. Elle était avec sa belle-sœur. Ils ont posé la main sur son ventre alors qu'on a prié et Dieu a donné la vie. Et là, j'ai emmené ce témoignage-là récemment et j'ai reçu un email parce que j'ai dit qu'il y avait eu 3 bébés Chêne. Et on m'a dit, Pasteur Stéphanie, il faut rectifier. Et j'ai reçu par la suite 2 femmes qui se connaissaient, qui étaient aussi infertiles, et on a eu 5 bébés Chêne miraculeux. Et ça, je crois qu'on peut applaudir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et pendant que les musiciens s'approchent, Dieu ne regarde pas pour choisir la vie. Ne regarde pas à tes limitations. Ne défends pas tes limitations, n'excuse pas. Mais choisis de regarder à celui qui a un potentiel, qui a mis le potentiel en toi. Il a le potentiel de te transformer, de t'emmener plus loin. La deuxième chose, pour choisir la vie, je peux regarder à l'obstacle, et il y en a, mais je peux regarder à celui qui ferait le chemin, qui fait quelque chose de nouveau. Et là, je me dis, comme bonne prédicatrice, je me dis, je vais terminer sur une histoire de vie comme ça, 5 bébés de guérison. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est pas terminé. Parce que Dieu peut frayer un nouveau chemin. Il peut le faire d'une façon surnaturelle comme ça. Mais parfois, Dieu ferait un nouveau chemin. Et est-ce que nous sommes prêts à marcher sur ce nouveau chemin? Le miraculeux, la vie en abondance, le nouveau chemin, peut nous demander de faire des sacrifices. C'est moins glamour, ça. Peut nous demander le nouveau chemin pour voir la vie abondante, si on a été blessé. Se marcher sur ce nouveau chemin peut nous demander de pardonner. Êtes-vous avec moi? Dieu veut faire quelque chose de nouveau, veut faire quelque chose de miraculeux, mais il nous demande parfois de marcher sur ce chemin. Il faut que tu gardes l'esprit ouvert. Ouais, je veux avoir le nouveau chemin, celui qui ferait le chemin. Mais partout dans la Bible, Les héros de la foi ont vu le miraculeux. Mais sur ce chemin-là, ça leur a coûté quelque chose. Il y a des choses à faire. Et je termine avec une dernière photo. Et je trouve ça important de le faire. Si je peux mettre la photo, la prochaine. Imaginez, ça, c'est ma femme, c'est mon mariage. Je ne sais pas si vous m'avez reconnue. C'est moi avec Luc et ma soeur, ma mère et mon père. Et Luc n'est pas si grand que ça. C'est parce qu'on est très petits chez nous. T'sais, il a l'air d'un géant à côté de nous, là, mais... Et moi, j'ai vu, Dieu a fait un nouveau chemin dans ma famille, dans la vie de ma mère. Je vous ai dit que ma mère était une femme très avant-gardiste, une féministe, une femme qu'il fallait que se dépasser, une femme tout ça, qui était bien fière de ses filles. Mais la chose qui nous séparait, c'est que ma mère était athée. Et lorsque je me suis convertie, lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, lorsque j'ai choisi de laisser ma carrière scientifique, ça lui a déplu profondément. On était en désaccord sur beaucoup de choses. Elle avait des problèmes personnels. Et ce qui fait que sur le chemin de la vie, on a eu des défis, elle et moi. En novembre 1999, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas, très agressif. Et je me disais, scientifique, cancer du pancréas, pas bon pronostic, pas de traitement. Je dis, Seigneur, elle va partir, puis elle ne peut pas ne pas te connaître. Seigneur, viens la chercher. T'sais. Viens faire un chemin nouveau. Moi, je voyais l'obstacle. Cette femme-là, athée, cette... bon, tout ça, je ne vous ai pas. Et le Seigneur a dit, vas-y, marche. Je suis capable de le faire, mais tu as des choses à faire. Et je me suis engagée de, jusqu'à temps qu'elle meure, en 1999, d'aller avec... J'avais deux enfants, 4 ans et 2 ans. C'était en pleine, si vous vous rappelez, c'était en pleine construction de l'église Nouvelle Vie. Mon mari était hyper impliqué, pression financière là-bas. Et je travaillais, je n'étais pas dans le pastorat, j'étais à Pointe Claire pharmaceutique. Et je me suis engagée à la visiter à toutes les 2 semaines. Mais je faisais Montréal, Rimouski, mes 2 enfants. Je partais le vendredi soir, cherchais mes enfants à la garderie, je m'en allais là-bas. Et commencer à prendre soin d'elle et commencer à rétablir une relation, de demander pardon, de rétablir parce que je voulais que Dieu la sauve. Juste ce qui est arrivé, ma mère voulait passer l'an 2000 et quelques jours, une semaine avant sa mort, j'étais auprès d'elle tout seul et le médecin a dit, vous devriez, à mon père et moi, il a dit, vous devriez aller appeler la famille parce qu'il y en a pour quelques heures, elle va partir. Donc, pendant que mon père va faire les appels, je me suis dit, Seigneur, moi qui est cartésienne, j'étais perdue dans un coma, je me disais, qu'est-ce qu'on va... T'as pas entendu la prière, comment elle va mourir parce qu'elle sera pas sauvée, tu sais. Et j'ai commencé à prier, moi qui chante extrêmement mal, je me suis mis à chanter dans cette chambre d'hôpital-là. Je chantais. Et j'ai commencé à lui faire la prière du salut, même si elle était en coma. Jésus est là, il est mort pour toi. Mais il n'y avait pas de réponse. Et vrai comme vous êtes là, ma mère s'est réveillée. Elle a dit, vous pensez que j'allais partir, mais je n'étais pas encore prête. Et dans les jours qui ont suivi, même si elle était très faible, elle qui était athée, qui en voulait à Dieu pour des raisons qui lui appartiennent, elle en voulait à l'église. Elle a demandé d'aller à la chapelle de l'hôpital. Elle a demandé d'aller comme si elle pouvait se recueillir dans la chapelle. Et moi, j'ai été profondément touchée. Et par la suite, quand je suis revenue dans les dernières heures, je suis partie à Montréal, mais je suis revenue après, quelques jours après. Et quand on est rentré, ma sœur et moi, dans la chambre d'hôpital, elle a dit « mes trésors ». Elle m'a dit « je suis maintenant en paix, prête à partir ». C'est un nouveau chemin. C'est un chemin différent. C'est un chemin qui te demande de choisir la vie, de choisir le pardon. Mais grâce à ça, je sais que ma mère va passer l'éternité avec Jésus-Christ. Alléluia. Dieu peut faire un chemin nouveau. Bien sûr qu'il peut le faire miraculeusement. Mais si tu choisis de croire qu'il peut le faire, même si c'est difficile sur ton chemin, même si c'est différent, il peut faire encore plus grand. D'une réconciliation, il a sauvé pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu? J'aimerais qu'on puisse terminer avec une prière vitement. Alléluia. Je sais que le temps est court. Alors, juste 30. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux avant qu'on puisse terminer avec un chant là où tu es? J'aimerais juste quelques instants prier pour toi. Je sais que ça fait beaucoup, mais aujourd'hui, ce même choix est devant toi. Tu as le choix entre la vie ou la mort, le choix entre la bénédiction ou la malédiction. Mais la Bible nous dit que ce choix n'est pas au-dessus de nos forces. Aujourd'hui, je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais Dieu te dit, choisis la vie. Choisis la vie. Peu importe ta situation, Dieu est au contrôle. Et Dieu te rappelle qu'il est souverain, qu'il est le Dieu créateur, qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Et parce que Jésus est vivant, tu as accès à sa présence ici dans ce lieu. Il peut te donner cette force aujourd'hui. Quelqu'un que tu es face à des limitations, extérieur ou intérieur, tu les connais, c'est en toi et Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit est capable de venir mettre le doigt, non moi, mais le Saint-Esprit, sur quelque chose qui te dit, Michel, Joanne, Nicole, sur cette situation, tu as une limitation, tu excuses cette situation, mais je te dis de regarder au potentiel. Fais-moi confiance, je suis celui qui repousse les limites. Mais sois vrai, transparent devant ton Dieu. Est-ce qu'il y a une limite extérieure? Tu as un rêve, un désir et tu te limites. Est-ce que tu as une limite intérieure, une limitation intérieure? Seigneur, viens guérir dans ce lieu. Seigneur, je te prie pour les obstacles. Seigneur, plusieurs, moi-même, je suis la première, nous sommes face à des obstacles sur le chemin de la vie. Je viens te prier comme tu l'as fait dans cette conférence, Seigneur. Tu ouvres un chemin d'une façon miraculeuse pour quelqu'un. Tu es capable de le faire encore, de guérir, Seigneur, de restaurer un mariage, de redonner l'amour. Mais Seigneur, comme tu l'as fait pour moi, je prie qu'alors que tu vas frayer un chemin, que nous puissions marcher avec obéissance sur le chemin de la vie. Alors tu redonnes la force à un homme, une femme, de marcher fidèlement, de pardonner, de marcher, de rechercher les choses d'en haut, de s'accrocher à toi et tu vas faire le miracle. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui ne revient jamais sans avoir fait son effet. Je prie de bénir mes amis, mes frères, mes sœurs dans ce lieu. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.